de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Écho, avec un C ou deux C. Un C seulement, et évidemment, Umberto Eco. Et les villes qu'il a habitées, aimées, puis cessé d'aimer. Les visages de leurs habitants, ceux que l'on ne regarde pas parce que trop connus, familiers, proches de soi-même. Ceux que l'on observe, que l'on veut connaître. Et toujours le plus intéressant, reconstruire son passé. Et aussi, la satisfaction de redevenir toujours le même. Exploiter sa vie sans en jeter une seule miette. À voix nue, Umberto Eco au micro de Francesca Piolo, le 22 avril 1996.
À voix nue. Aujourd'hui, Umberto Eco s'entretient avec Francesca Piolo. Premier entretien.
J'ai toujours une sorte de trac quand je viens interviewer, quand je rencontre Umberto Eco.
Oui.
J'ai toujours peur.
Ah.
Oui.
Et pourtant, nous avons eu des aventures.
Oui. On a fait une grande promenade rue Mouffetard ensemble. Rue Mouffetard, vous rappelez ?
Frémissante d'amour.
Voilà. Et jusqu'à Saint-Médard et les convulsionnaires qui vous sont chers.
Oui. Hein ?
Mais je ne sais pas. Parce
non,
que...
ce n'est pas que je meurs pour le convulsionnaire. Je me souvenais de l'histoire, de la citation.
Oui. Oui, moi, cette appréhension que j'ai, c'est parce que vous êtes tellement d'abord sollicité. Hein ? C'est-à-dire que, bon, c'est Eco. Et puis. Et c'est comme une sorte de monstre sacré. Moi, je vous ai rencontré une fois, c'était au Conservatoire des Arts et Métiers, avec le pendule de Foucault.
C'est évident.
Hein? Et puis, vous étiez en train de raconter une histoire drôle, et avant même que vous...
Ça n'éclaircit pas la situation, parce que je raconte toujours des histoires drôles.
Oui, mais cette fois-là, vous n'aviez même pas fini de la raconter, que tout le monde riait déjà.
Alors, ça ne vaut pas la peine, donc.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on vous avait mis dans un tel rôle, sur un tel piédestal, qu'on était persuadé que vous étiez drôle a priori, quoi.
Alors, oui, je vous raconte une histoire extraordinaire. Mais il faudrait entendre l'histoire racontée par Arnold Weinstein, qui est un dramaturge américain très sympa. Il était là et il raconte toujours l'histoire. Et c'est seulement après qu'il l'a racontée que j'ai compris réellement comment elle s'était passée. J'avais été invité à une de ces conférences à Columbia University, de ces conférences qui ont un nom, John Smith Lectures, ça veut dire qu'ils sont très importants chaque année. Ouais. Et alors, puisque je savais que c'était une chose sérieuse, j'avais préparé un sujet très technique, très histoire de la philosophie, très érudit, parce que, enfin, on me demandait une chose de ce type-là. Au contraire, il y avait une salle énorme, parce que c'était la même année, je crois, où Le Nom de la Rose est sorti aux États-Unis, et donc il y avait même un public... non spécialiste. Et la dame professeure là à Columbia qui m'a présenté a eu la mauvaise idée de commencer par dire « Ah, Umberto Eco, c'est toujours tellement drôle, cet conférencier est tellement aimable. » Alors, je commençais en disant « Lorsque dans l'article 25 de la Seconda Seconda de Saint Thomas d'Aquin, oh, 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 et tout le monde riait, ça, le problème de transcendantaux dans la philosophie médiévale, oh, 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 et tout le monde riait. » Alors, il y a cet ami à moi qui raconte l'histoire de cette conférence, j'étais sérieux comme tout, et les gens éclataient derrière. Vous voyez, parfois, ça n'est pas tellement agréable.
Ça vous gêne?
Non, tant pis pour eux.
Tant pis pour eux. Voilà. Donc, moi, ça m'a gênée, c'est effectivement, cette espèce de rire a priori. Et puis aussi le côté toujours un peu oraculaire, quoi, l'instance de prophète dans laquelle on vous met.
Mais ça c'est la situation normale des intellectuels dans l'univers des médias. On les emploie comme des oracles, ce qui est une bêtise, évidemment, mais l'absence d'oracle fiable oblige les médias pour pouvoir dire des platitudes, les attribuer aux intellectuels. Une fois, j'en souviens que je dis au directeur d'un magazine, il m'arrive toujours que des journalistes, les journalistes de ton magazine me téléphonent en disant « Est-ce que vous acceptez qu'on met entre guillemets la phrase « Les médias sont un problème fondamental de notre temps ?» Oui, ils sont un problème fondamental, mais c'est une idée normale. Pourquoi ? Ah, parce que nous avons l'ordre que lorsqu'il y a un concept important, il faut l'attribuer à quelqu'un. Et alors, ils construisaient l'oracle pour dire une platitude, quelque chose qu'ils auraient pu dire naturellement, comme Paris est la capitale de la France. On a besoin de la mettre entre guillemets et de l'attribuer à nous. Personnellement, je ne réponds plus au téléphone, mais... je sais, même mes collègues, il arrive qu'un jour, on m'attrapait, ma ville, Alessandria, il y avait eu une inondation, la ville était sous l'eau, pratiquement. On m'appelle, et qu'est-ce que vous pensez de cet épisode ? Évidemment, je dis, je suis très triste, mais il cherchait un scoop. Le scoop aurait été si je disais, ah, je suis heureux, finalement, on a détruit cette sale ville, etc., etc., puisque... C'était impensable que je disais ça. Il n'y avait aucune raison de demander à quelqu'un quelles étaient ses réactions en face d'un désastre. Mais on avait besoin d'un prête-nom. Mm-hmm. Ce sont les inconvénients.
Les avatars des intellectuels.
Du métier.
En France, on vous appelle Echo. Monsieur Voilà, quoi.
Oui, mais avec deux C.
Oui, vous n'aimez pas ça. Hein.
Mais non, je n'aime pas ça. Je suis toujours un peu navré lorsqu'on m'écrit sur une lettre écho avec deux C. Mmh. Parce qu'évidemment, ils ont en tête l'écho. Voilà. Je sais très bien que ça arrive souvent avec les noms étrangers. Lorsque je dois écrire un nom comme Goldman, Goffman, etc., je ne sais jamais s'il y a deux N ou un N. C'est normal. Mais je veux voir. Je veux contrôler. Alors, je suis irrité lorsqu'on me met de C, pas par la faute en soi qui est presque naturelle, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller contrôler. Alors je jette la lettre.
Vous êtes un homme du contrôle, vous allez tout contrôler. Quand vous écrivez un livre, quand vous faites l'expérience avant, comme Zola faisait quand il prenait
le problème train. Est de réduire le faute au 10%. Il y en a toujours.
Vous êtes une sorte d'expérimentaliste ? Observation, hypothèse, expérimentation, théorie à la Claude Bernard.
Nous avons parlé de contrôle, pas d'expérience scientifique. Le contrôle, c'est ce qu'on nous a enseigné, je ne dis pas à l'école primaire, mais au moins au lycée. Quoi. Si on doit citer un vers, on va contrôler si c'est vrai, si la mémoire nous a trahis. C'est normal. Ouais. Si on fait le prof, c'est normal. Sinon on est malhonnête.
Allumez votre cigarette pendant que j'inspecte votre univers à Paris, là. Vous avez un ordinateur auquel...
Vous dites ici ou dans la vie ?
Ici, à Paris, là.
Ah non, ici, j'ai un portable.
Un portable.
J'en ai 8.
Portable, fax, des adresses d'Internet que vous déchirez comme ça dans les revues ?
Oui.
Oui ?
Oui, après, je mets le temps de visiter tous ces sites, mais... On ne téléphone pas à tous les gens dont on a enregistré les noms dans son carnet.
Et puis des cassettes de vous, là, dans Nulle part ailleurs, du 22 février. Vous regardez ensuite vos prestations télévisées ?
Honnêtement, d'habitude, non, parce que parfois, il y en a trop. Parfois, je dois immédiatement après contrôler, mais sinon...
Je vous ai vu une fois à Bologne avec vos étudiants en train de regarder une émission de variété. Je ne sais pas si c'était Buongiorno, je ne sais pas qui était l'animateur de variété, mais est-ce que vous pourriez, à votre égard, avoir le même esprit critique, la même attitude que lorsque vous regardez comme ça au milieu de vos élèves, assis sur le canapé, une émission variété.
Donc, je crois, oui, si on est en équipe. Évidemment, lorsqu'on se regarde soi-même dans un enregistrement, dans une vidéo, c'est comme lorsqu'on se regarde au miroir. On a une vision de déformée. Parfois, on est concerné seulement par une tache rouge et tout le reste. Je ne m'aime pas tellement, ni en photo, ni au miroir. Je n'aime pas mon visage. Il y en a des autres que je préfère. Et donc, ce serait difficile de pouvoir juger son propre geste, son propre inflexion de la voix. Mais si on travaille à l'équipe et les autres font des remarques... En tout cas, je ne ferai jamais une analyse d'une émission à laquelle je participe parce qu'il n'y aurait pas la distance critique nécessaire. Dans la même mesure où je pense que personne n'écrirait pas un compte-rendu de son propre livre.
Je reviens, vous n'aimez pas votre visage, vous dites. Il a des ressemblances, votre visage ? Il a un air de famille ?
Lorsque j'étais jeune, j'avais l'impression de ressembler à des oncles que je n'aimais pas tellement, dont le visage je n'aimais pas tellement. En tout cas, je me préfère maintenant que lorsque j'étais jeune.
J'ai vu une photo de vous à Paris en 52, lorsque vous êtes venu pour la première fois reçu par une délégation à l'hôtel de ville.
Ah
oui, hein, oui c'est quelqu'un d'autre complètement, mais c'est pas oui, une histoire de temps, c'est que...
Non,
c'est...
mais là, il y a une histoire très belle. Un jour, je commençais à grossir après les 30 ans. J'étais très maigre, comme on voit dans cette photo. Après, je commençais à grossir. Un jour, par pur hasard, j'ai trouvé deux photos. L'une était celle de l'hôtel de ville. L'autre, c'était celle d'un événement, un congrès, dans lequel je serrais la main à un type. Mais les deux photos reproduisaient la même scène, dans la même situation, deux hommes qui se serraient la main avec des autres. Sauf que dans la première, j'étais très 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 mince, l'autre très grand. Dans la deuxième, c'était le contraire. Alors une fois, je me mis les deux photos à côté.
Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez mis les deux photos à côté?
Ah, j'ai commencé un régime.
Ça a marché.
Ah, vous connaissez Italo Svevo, la coscienza di Zeno, où Zeno arrête de fumer chaque jour et je commence en régime chaque année.
Umberto Eco, vous avez choisi d'habiter quand même un peu Paris, du côté de la rue Servan-Denis.
Ouais.
Et puis du côté de là-bas, de Huysmans.
Et oui, parce que c'est un auteur qui m'avait touché autour de mes 20 ans. Donc. Oui, j'ai choisi le quartier où j'habite lorsque je suis à Paris, en suivant certains souvenirs. Donc c'est le quartier Huysmans, c'est le quartier Dumas, c'est un peu le quartier tout. Hein.
C'est des choix qui sont quand même des choix très sentimentaux. C'est une sorte d'attachement à ce que vous avez été, par exemple, sur la photo des 20 ans. C'est des choix qui sont liés à vos lectures passées, qui sont...
Alors, deux réponses. Oui. Les choix sont toujours mêlés de hasard. Évidemment, si je ne trouvais pas cet endroit, j'en avais trouvé un autre sur l'île Saint-Louis qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est après coup qu'on dit « j'ai choisi ça pour cette et cette raison ». Mais... il y a des mouvements inconscients qui probablement entraient. Oui, je pense que l'aspect le plus intéressant d'une vie est de reconstruire continuellement son passé. Je le fais dans tout domaine. Par exemple, je n'ai pas arrêté d'avoir des contacts amicaux avec toutes les femmes de ma vie. Depuis la petite gosse que j'avais connue à l'université, c'est-à-dire il m'est inconcevable de couper avec un aspect de ma vie et de l'oublier et de couper. J'ai un cher ami, qui est exactement le contraire. Lorsqu'il a fini une expérience, et par exemple il a travaillé dans de différentes villes, comme il termine une expérience, et il arrive au point de nier l'évidence. Lorsqu'on lui dit « Mais tu étais là, tu connaissais le type tel ou tel. » Oui, mais peut-être tu te trompes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est une personne très normale, avec une vie intellectuelle et sentimentale très riche, mais il y a cette attitude à recommencer, à devenir toujours un autre. Pour moi, le problème, c'est de redevenir toujours le même. Et voilà, je trouve ça agréable, une façon d'exploiter sa vie sans en jeter une seule miette.
Comment vous abordez les villes, vous, Umberto Eco ? Comme des livres ouverts ?
J'aime les villes.
Oui, sûrement.
J'en souviens toujours de ce conte de Borges, ce type qu'en France on appelle Borges, mais il s'appelle Borges, et qui raconte l'histoire d'un barbare. Au temps de Romains, hein, qui passent les Alpes pour ravager la péninsule italienne, un barbare qui vient de forêt du nord. Et tout à coup, du sommet d'une colline, il voit une ville qui est probablement Ravenne. Il voit le mur, les tours, et c'est la première fois dans sa vie qu'il voit un objet comme ça. Ils avaient vu des hameaux dans la forêt, des huttes. Et tout à coup, ils voient ce miracle humain qui est une ville. Et alors, ils tombent en genoux et ils deviennent esclaves des Romains. C'est un conte que j'aime beaucoup parce que la ville, une ville, c'est un objet extraordinaire. C'est un livre. Et donc, une ville, c'est un endroit où on se promène. Où on vit, évidemment, mais où on se promène, c'est un endroit qu'on explore. Lorsqu'on tombe par hasard dans une ville où on reste dans l'hôtel 3 jours et après on repart, ça veut dire que cette ville n'existe pas, sauf si on a la grippe, mais elle nous a dit rien. Une ville, c'est une forêt, un territoire inconnu, ou tout coin. Et alors, dans ce sens-là, Paris, c'est... tous les cochons sont égaux, mais il y en a certains qui sont plus cochons que les autres, égaux que les autres. Et toutes les villes sont des villes, mais il y a des villes qui sont plus villes que les autres. Et Paris, c'est la villéité, Überhaupt.
Vous avez des habitudes dans les villes, des repères, quand vous les appréhendez ?
Oui, mais si une ville est intéressante, les repères peuvent changer. À propos de Paris, je raconte toujours que lorsque j'étais ici en 50-51 et je préparais ma thèse sur l'esthétique, je m'étais recoupé un Paris tout à fait médiéval. Et récemment, lorsque je venais ici et j'étais en train d'écrire l'île du jour devant, je me suis recoupé un Paris 17e. Et donc, on prend d'une ville ce qu'elle vous peut offrir au fur et à mesure que vos intérêts, vos curiosités changent.
Mais aux gens des villes, vous êtes attentif aux gens que vous rencontrez dans les cafés, ou alors...
Ça dépend des villes.
Ça dépend des villes.
Ça dépend des villes. À Paris, je ne regarde pas tellement les gens. J'ai l'impression de les connaître. À New York, non. À New York... chaque personne qui vous passe à côté, c'est un type différent. Il y a des découvertes à faire à propos des gens. Donc, il y a des villes où on est plus intéressé aux boutiques et des autres aux couleurs du ciel et des autres aux gens. Mais c'est évident que si je vais à Bombay, alors je regarde les gens parce que c'est une expérience exotique et je veux comprendre des visages différents des miennes.
À Dublin,
la première fois, je regardais beaucoup les visages parce que j'y cherchais le visage de Joyce, etc. Alors, j'avais exploré la nuit, les pubs et tout ces choses-là. Et la deuxième fois, au contraire, j'y cherchais des autres choses et je ne regardais plus les visages.
Il y a des villes que vous n'aimez pas, ou des villes qui ne vous aiment pas, est-ce qu'on peut dire comme ça? Naples, c'est une ville que vous n'aimez pas, Umberto Eco.
Chaque ville que je visite pour la première fois, mais ça m'arrive pour chaque endroit, j'essaye toujours de penser, est-ce qu'il serait beau d'y vivre régulièrement? Et j'essaye de trouver une raison par laquelle. Alors, le problème, ce n'est pas tellement les villes qu'on n'aime pas, parce qu'on fait toujours un effort pour aimer une ville. C'est plutôt les villes dans lesquelles on revient plus volontiers, et donc qu'on veut revisiter. Alors, il y a des villes, Paris, évidemment, New York, sans doute, Barcelone, autrefois Rio de Janeiro. Maintenant est en train de tomber en miettes. C'est une tragédie, cette ville. Buenos Aires, certainement. Amsterdam. Prague. Tandis que j'ai été récemment à Varsovie, ville très belle, plein d'histoires. J'ai beaucoup d'amis, mais voilà, j'y suis revenu. Je l'ai revu après 20 ans. Ça m'a intéressé de voir les changements qui ont eu lieu et c'est fini. Moscou, j'y étais une fois. Et ça a été assez pour moi, je l'ai comprise. Peut-être il joue aussi le fait si vous parlez la langue ou non. Donc une ville dont vous ne parlez pas la langue, ça ne vous attire pas. Tellement dans ce sens-là, Amsterdam, c'est belle parce que vous pouvez parler anglais, vous pouvez parler français, ce n'est pas nécessaire de connaître l'hollandais. Mais Amsterdam, c'est une ville où je pourrais vivre. Mais les deux villes dans lesquelles j'aimerais vivre sont New York et Paris, fondamentalement. Après, il y a deux villes qu'on a aimées et qu'on aime plus, Rome. Aux années 50 et 60, j'aimais Rome beaucoup et j'essayais d'y aller fréquemment. Maintenant, si j'arrive le matin par avion pour une réunion, ça finit à 3 heures, à 4 heures, je prends l'avion et je reviens.
Et vous savez pourquoi vous n'aimez plus? Il n'y a plus le groupe 63, mais...
Toute ville change. Il y avait des endroits aux années 60 où s'étalait une vie sociale très belle, qui était encore la Rome de Fellini, de Dolce Vita, si vous voulez. Et ça n'existe plus. Je crois que c'est la faute à Rome, mais peut-être c'est un petit peu aussi la faute à moi. C'est pas, en tout cas, c'est une histoire d'amour qui est finie. Il y avait des villes que je n'aimais pas tellement. Après, j'ai eu l'occasion d'y rester plus souvent. Je commençais à les aimer comme Florence. Vous savez, c'est comme avec les personnes.
Il y a des
personnes qu'on a aimées beaucoup pendant nos 20 ans, nos 30 ans, et qu'après... on cessait de nous intéresser. Il y a le divorce. Et il y a le coup de foudre.
Et ma question sur Naples, vous n'avez pas répondu. Vous l'avez évité, là.
Non, parce que c'est une ville envers laquelle j'ai des sentiments contradictoires. Parfois, je me dis, c'est merveilleux. Parfois, je dis, oui, c'est beau, mais pour le regarder de loin, ce n'est pas l'endroit où je pourrais vivre. Parfois, je me trouve à explorer des ruelles et je dis, mais c'est une ville fantastique. En tout cas, ce sont des sentiments contradictoires.
Votre ami Calvino dit qu'il y a des villes sous les villes.
Oui. Mais vous dites dans le sens littéral du mot, comme les catacombes à Paris ou les métros, des couches, pour ainsi dire.
Oui, il y a les couches qui appartiennent à la ville et les couches qui appartiennent à notre mémoire, vous qui faites toujours cette grande plongée dans la mémoire.
Oui, mais c'est ville. Évident. Mais parfois, la ville change de telle façon qu'il vous devient difficile à l'associer à une mémoire donnée. Je vous fais un exemple. J'ai passé toute ma jeunesse universitaire à Turin. Toutes les premières découvertes intellectuelles, sentimentales, sont passées à Turin. Et même après l'université, disons pour une dizaine d'années presque, bien que j'habitais Milan, je continuais à aller à Turin. Et donc tout endroit, tout coin était associé à une odeur, un parfum, une sensation même tactile, une mémoire. Après, il s'est passé quelque chose. Avant tout, Turin a changé. C'était une ville que, lorsque j'y vivais, c'était 700 000 habitants. Dans l'espace de 5 ans, elle est devenue 1,5 million, et la différence était immigration. Donc, aucune ville. Spécialement s'il s'agissait d'une ville traditionnelle, un peu aristocratique, comme Turin, peut peut supporter dans l'espace des 5 ans un redoublement et plus qu'un redoublement de la population. Ça produit des névroses, des névroses qui deviennent même des névroses physiques, architecturales. La face des rues change. Donc Turin a subi des changements. Moi-même j'ai subi des changements. Comme je reviens à Turin, de moins en moins, et je reviens avec l'envie de retrouver mon passé, je prouve des difficultés. Et alors, je me navre un peu parce que j'étais revenu comme un pèlerin pour retrouver tel ou tel endroit et ça m'échappe. Alors, il y a toujours une certaine douceur dans ce retour, mais en même temps, un sens de malaise. Alors, je préfère me souvenir de mon Turin, de me reconstruire mon propre Turin à moi.
La mort viendra, elle aura tes yeux. Pour moi, Turin, c'est ça.
C'est pavé, c'est ça.
Oui, c'est Turin aussi.
C'est Turin aussi.
Et Piemontesi, Falsi e Cortesi. Vous vous retrouvez là-dedans, Piemonte, Faux et Courtois.
Donc, je ne m'y retrouve pas pour une raison ethnique très simple. Ma ville, Alessandria, qui est presque au sud du Piémonte, au bord de la Liguria, est ethniquement et donc linguistiquement, le dialecte, tout un peu différent du reste du Piémont. Elle subit les influences soit de l'Émilie, de la Lombardie, de la Liguria. C'est une ville bâtarde. Et donc, on a un caractère différent du Piémont du Nord. Donc, tandis que le caractère typique de Turin et du Piémont en général, c'est une certaine douceur du dialecte, une certaine courtoisie, qui parfois peut être mal entendue comme hypocrisie, etc. Alessandria, ville bâtarde, on est violent et vulgaire, avec une franchise qui est en défaut, pas vertu. Mais je me souviens que lorsque je commençais à l'université à Turin, j'ai rencontré mes copains à l'université, très bien habillés, qui me serraient la main en disant « Comment vas-tu aujourd'hui, mon cher ?» Chez moi, on était habitués qu'on s'est « Voyez, toi donc, sale type hein !» C'était comme ça l'approche, ça fait la différence.
Vous avez appris à devenir... plus courtois.
Mais en faisant des interviews, pas en vivant à Turin.
C'est-à-dire à cacher vraiment ce que vous pensez.
À voix nue, Umberto Eco s'entretenait avec Francesca Piolo. Réalisation, Nicole Salerne.
Ce premier volet d'A Voix Nue, Umberto Eco au micro de Francesca Piolo, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 22 avril 1996. Umberto Eco disparu le 19 février 2016. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.